2 rois 7, 3 à 11. Dimanche, lundi et mardi, nous serons ensemble pour annoncer la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est la mission de l'Église. C'est tellement, tellement important. Nous pourrions nous passer de cela et nous contenter de nous retrouver qu'entre nous, gentiment, chaleureusement, mais nous raterons ce qui est le but suprême de l'Église sur terre. Alors, je crois que tant que Jésus ne revient pas, c'est toujours le temps d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est toujours le temps d'annoncer l'Évangile. Avant de lire ce passage qui nous introduit dans cette réflexion et qui nous encourage à ces jours qu'on va vivre ensemble, avant de lire ce passage, je voudrais citer deux versets encore, 1 Corinthiens 9, 16. Quand Paul dit ceci, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est la nécessité qui m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Il ne le dit pas parce qu'il est appelé à annoncer l'Évangile par le ministère qu'il a, mais il le dit aussi en projection pour chacun d'entre nous. D'une manière ou d'une autre, nous sommes laissés sur place, sur cette terre, parce que nous avons un devoir de témoignage, de prédication de la bonne nouvelle à porter. C'est une nécessité. Et malheur à moi, dit le croyant, si je n'annonce pas l'Évangile. Jésus pouvait dire dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous voulons aimer. Nous voulons aimer de l'amour du Seigneur. Et le témoignage, c'est le don, c'est l'expression de notre amour pour ceux qui nous entourent. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu sur terre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Reinhard Bonnke. Peut-être, hein? Pour certains, c'est un évangéliste qui a un grand impact en Afrique. Il pouvait dire ceci, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, mais de sauvetage. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, mais de sauvetage pour le salut des âmes. Et à bord, chaque personne est nécessaire. Chaque matelot dans la barque, dans le paquebot de l'évangile qu'est l'église, eh bien chaque personne est nécessaire. Je prends aussi une autre citation d'une dame chrétienne aveugle du 19e siècle. Vous vous rendez compte, elle a composé 9000 cantiques. 9000 cantiques dont pas mal de ces cantiques sont traduits en français, ça fait partie de nos cantiques dans les ailes de la foi et dans, avec des messages extraordinaires. Elle s'appelle Crosby Fanny. Cette femme pouvait dire « Va à la rescousse des perdus, c'est ton devoir. Le Seigneur te donnera la force d'accomplir cette tâche. Va à la rescousse. Tu es sur un bateau de sauvetage. Dieu n'a maintenant n'a que nous maintenant, mais c'est tout ce dont il a besoin. Dieu n'a que nous, et à présent c'est à nous d'entrer en action. Alors on va illustrer tout cela dans 2 Rois chapitre 7 verset 3. C'est au temps de anciens de la Samarie, où c'était un temps très difficile. La ville de Samarie était assiégée, affamée par le roi syrien Ben-Hadad qui entourait la ville. La détresse était extrême. Dans le chapitre 6, on voit que les denrées étaient extrêmement chères à acheter et il n'y en avait plus. Et un malheur terrible, un incident nous montre une femme qui va voir le roi qui dit au secours, le roi dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, et cette femme dit eh bien je vais te dire ce qui est ma vie, je me suis entendue avec ma voisine, on a dit, ma voisine a dit on va manger nos bébés, en temps de famine, tu vas aujourd'hui cuire ton enfant, on va le manger ensemble. Et demain, ce sera le mien. Et cette femme raconte en disant, j'ai fait comme cela pour mon enfant. Et le lendemain, on devait manger son bébé. Mais elle l'a caché. Voilà. Et cette femme raconte cela au roi qui déchirait ses vêtements et qui était tellement dans la détresse. De voir la souffrance de ce peuple affamé, en train de mourir. Voilà la situation. Alors, à ce moment-là, il y a eu Élisée, le prophète, qui a dit une parole de Dieu. Il a dit, demain, il y aura de la nourriture en abondance. Croyez-le, Dieu va accomplir un miracle. Et la provision sera partout. Il y en avait qui ne croyaient pas et qui se moquaient d'Élisée. Mais voilà maintenant la suite, et nous le lisons verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte de la ville quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. » Parce qu'en fait, en tant que lépreux, vous le savez, hein, ils sont exclus de la communauté. Donc, ils vivaient à l'extérieur, dans les buissons. Et ils étaient pris entre deux feux. Il y avait les Syriens qui entouraient la ville, et il y avait la ville où il y avait la famine. Donc, à un moment donné, ils ont dit cela. Si nous restons ici, nous allons mourir également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent de nouveau des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Et ils partirent. Ils appelèrent les gardes de la porte de la maison, de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Nous regardons un instant ces quatre lépreux. Ces quatre lépreux étaient eux-mêmes plus désespérés que ceux qui étaient désespérés. C'était les pires de tout cet endroit, puisque de toute façon, ils étaient rejetés, ils étaient malades, ils étaient affamés eux-mêmes, et c'était des morts en survie, quoi qu'il en soit. Parce qu'à cette époque-là, la lèpre, ça ne se guérissait pas, et ils étaient ainsi exclus. La détresse était extrême. Seul le miracle de Dieu a pu apporter une solution. Les quatre lépreux, dans leur nuit de désespoir, ils sont allés, perdus pour perdus, ils sont allés dans le camp des Syriens. Peut-être que, on ne sait jamais, mais bon, qu'est-ce qu'on perd, hein? Alors ils sont allés, et puis nous assistons au miracle de ce que Dieu avait annoncé la veille par la bouche de Élisée. Ils ont trouvé le camp plein de denrées. Ils ont dit, mais c'est extraordinaire, c'est le miracle. Si nous étions à leur place, on dirait la même chose. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. C'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ils auraient dit X fois, et puis ils se sont servis joyeusement après avoir mangé. Ils ont dit, on va calculer pour notre avenir, on va cacher des trésors pour nous, etc., etc. Et puis soudain, il y a eu un arrêt. Lequel de ces quatre? Il y a eu un arrêt et il s'est arrêté. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est pas possible. On est en train de vivre un bonheur extraordinaire, une grâce extraordinaire. Et on a complètement oublié nos compatriotes. On a complètement oublié tous ceux qui sont dans la ville. Et il y a eu un réveil de conscience. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ils se dirent l'un à l'autre. Il y en a un qui a pris conscience, mais il y a eu une stimulation mutuelle. Vous avez compris certainement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, que c'est un encouragement pour nous face à un effort d'évangélisation que nous faisons ensemble. Et c'est important pour nous de nous stimuler les uns les autres ensemble. Alors que ce soir, nous allons prier aussi pour que le Seigneur bénisse. Mais ils ont dit, ça nous concerne, nous tous, tous les quatre, on est là, on a tous les quatre goûté à la même grâce. C'est une grâce imméritée. Et n'est-ce pas ce que nous aussi, en tant que frères et sœurs et Église, nous pouvons dire la même chose? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi Dieu vous a sauvé? Quand j'ai goûté à cela, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce privilège de le connaître alors que je ne suis pas mieux que d'autres. En tant que Vietnamien, à cette époque j'avais 16 ans et je me suis dit, mais moi, petit Vietnamien, au milieu des millions d'autres petits Vietnamiens, pourquoi j'ai ce privilège de pouvoir échapper à quelque chose, à venir en France et par-dessus tout à entendre le message de la croix, à être sauvé par le Seigneur. Et les autres, ceux de ma race, ceux de... Ils sont beaucoup d'entre eux bien meilleurs que moi. Ils mériteraient beaucoup plus que moi. Pourquoi moi? Et quelque part, frères et sœurs, nous devons être toujours passionnés de la grâce imméritée que le Seigneur nous a accordée. Pourquoi nous? les autres qui sont dans la ville d'Arles et les environs. Pourquoi nous? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu nous a fait cette grâce. Mais ce qui doit nous réveiller en nous, c'est de dire, je ne peux pas garder cela pour moi-même. Je n'ai pas de mérite et je n'ai pas le droit de garder cette faveur pour moi. Je dois tout faire, tous mes efforts pour pouvoir donner à d'autres l'occasion de goûter à cette grâce. C'est un absolu. Et ils se sont stimulés et ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Si nous restons tels que nous sommes, pour nous chrétiens, jusqu'au retour du Seigneur entre nous, nous n'agissons pas bien. Et eux, ils disaient, c'est coupable de continuer ainsi. En fait, vous avez remarqué, ils ont dit, nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont dans une action, alors qu'ils ne font rien pour toucher les autres. Et l'inaction, voyez-vous, est une action coupable. Nous n'agissons pas bien. L'inaction est une action coupable. Et Dieu nous redemandera des comptes s'il nous voit dans l'inaction en tant qu'Église, en tant que témoin, qui ne passe pas au témoignage. Alors, c'est le verset 9, c'est ce verset que je voudrais qu'on lise plus précisément, portion par portion. Ils se dirent l'un à l'autre, une stimulation mutuelle. Nous n'agissons pas bien. Si nous restons comme cela, c'est coupable. Et ils ont dit comme cela, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Nous avons en nous quelque chose d'extraordinaire, un peu comme Pierre, dans le chapitre 3 des Actes, qui pouvait dire, je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or, mais finalement j'ai quand même quelque chose de tellement, tellement riche. J'ai le nom de Jésus à t'annoncer. Et nous avons la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas pauvres, nous avons quelque chose que le monde envie. Et ils ont dit, cette journée, c'est aujourd'hui. C'est maintenant le temps d'annoncer. Et ils savaient qu'ils avaient en possession cette bonne nouvelle à transmettre. Ils ont réalisé que c'est le moment et qu'il ne faut pas penser que c'est plus tard. C'est aujourd'hui. Cette journée, c'est la bonne nouvelle. Voyez-vous, il est important de savoir que Dieu nous place là où il a envie de nous placer. Pourquoi on est sauvé? On a dit tout à l'heure, on ne sait pas. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi je vis à Arles? Peut-être que vous avez des raisons. J'ai déménagé, ou je suis né ici par des parents. Pourquoi? Mais on peut trouver quelques raisons qui semblent dans notre logique et dans ce que nous avons comme capacité de réflexion. Mais dans l'éternité, par rapport à ce qui est, pourquoi Dieu a appelé, par exemple, le pasteur Alain Garcia à être pasteur de l'église d'Arles dans cette période-ci. Pourquoi, mon frère, ma sœur, vous êtes chrétien de l'église ici? Ce n'est pas le hasard. Dieu nous place là où il nous place et il nous rend responsables de nous développer dans le cadre où il nous a placés. Pourquoi je ne suis pas né au 18e siècle? Et pourquoi au 21e siècle? Dieu me dira toutes ces choses-là, mais Dieu, aucune chose qui nous arrive dans notre vie n'échappe au regard du Seigneur. Et il veut nous conduire dans notre destinée. Et c'était important pour ces quatre lépreux de se dire, mais non, nous n'agissons pas bien. Si nous sommes dans ce jour-ci, si nous sommes dans ce lieu-ci, il y a un but. Et ils ont réalisé que le but était d'être des instruments entre les mains du Seigneur pour être source de bénédiction à leur entourage. Si nous, chrétiens d'Arles, nous ne prenons pas notre responsabilité alors que Dieu nous a placés aujourd'hui dans ce lieu, si nous ne prenons pas notre responsabilité d'être des chrétiens témoins de Jésus, qui le fera? Dieu nous a placés dans un monde, dans un cadre dont nous sommes responsables. Et Dieu va nous aider, frères et sœurs. Dieu va nous aider à vivre en tant que témoins dans le cadre où nous sommes. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ils ont dit, si nous gardons le silence, si nous gardons le silence, vous savez, l'ennemi de la vérité, c'est quoi? L'ennemi de la vérité. Peut-être qu'immédiatement vous allez dire, ben, c'est le mensonge. En réalité, l'ennemi de la vérité, c'est souvent le silence. C'est en premier lieu le silence. Quand nous connaissons la vérité et que nous ne le disons pas, quand nous connaissons la vérité sur certaines situations, sur certaines circonstances, mais que nous n'annonçons pas, que nous n'éclairons pas, les gens vont continuer à vivre dans l'erreur. Et les conséquences sont terribles. Si nous connaissons la vérité, nous devons parler et non pas cacher la vérité. La bonne nouvelle de Jésus pour le monde, c'est la vérité avec un grand V à annoncer. Et ces gens ont dit, si nous gardons le silence, nous sommes coupables. Si nous gardons le silence. Ils ont dit, si nous attendons la lumière du matin, c'est-à-dire, si nous attendons, alors qu'on est en pleine nuit, là, hein, il fait froid ou il fait sombre, si nous attendons des conditions plus raisonnables, plus favorables, nous allons remettre ça quand le jour se lèvera. Ce sera plus confortable, ce sera plus facile pour agir, etc., etc. Des fois, on se donne, on peut se donner des raisons. On n'a pas envie de faire ce pas d'aventure qui nous engage d'être témoin de Jésus auprès des autres parce qu'on a certaines craintes. Où après, on se réfugie derrière peut-être quelques circonstances, quelques prétextes, comme ces gens qui pourraient dire, en tout cas, à leur niveau, peut-être qu'il faudrait attendre, soyons raisonnables, attendons la lumière du jour. Mais la conscience, dans leur cœur, ils ont dit, ce n'est pas, nous n'agissons pas bien. si nous gardons le silence, si nous nous taisons et nous ne parlons pas, si nous ne partageons pas la vérité, si même nous repoussons à plus tard, au matin, à une condition plus favorable, à une plus grande mission d'évangélisation, à l'inauguration de l'Église, je ne sais pas. Voilà. Non, c'est aujourd'hui, c'est cette journée. Plus tard, dans un mois, ce sera dans un mois. Si Dieu ne revient pas, si le Seigneur Jésus ne revient pas, ce sera dans un mois. Mais là, c'est aujourd'hui le jour encore d'annoncer l'Évangile. Ils ont dit, si nous gardons le silence, si nous attendons la lumière du jour, le châtiment nous atteindra. Voyez l'inaction, on a parlé de cela. Le silence ou la procrastination, c'est-à-dire la remise à plus tard, sont des attitudes coupables pour le témoin de l'Évangile. Non, demain, ce sera demain et il y aura le plan pour demain. Mais je vis dans le jour d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de parler, si aujourd'hui, il y a des circonstances qui peuvent aider des affamés du monde à être rassasiés, eh bien, j'ai le devoir. Je dois le faire. S'ils ne me croient pas, s'ils ne m'écoutent pas, s'ils disent que ce sont des rêveries, ça les regarde, ça leur appartient. Mais quand je connais la vérité, quand Dieu m'a fait la grâce, eh bien, c'est mon devoir de le partager. Autrement, le châtiment, dit ces lépreux, m'atteindra. Vous savez ce que Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, je le lis, verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et s'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son péché, mais toi, tu sauveras ton âme. » Vous voyez le silence, si nous ne restons pas dans le silence, si nous annonçons, alors après, la responsabilité pour la personne qui écoute. Mais nous, nous aurons annoncé. Ça, c'est important. Alors, c'est pour ça qu'ils ont dit, si nous faisons ça, eh bien, le châtiment nous atteindra. Et je continue rapidement. Venez maintenant, allons informer. Le verset suivant nous dit, ils partirent. Ils appelèrent les gardes, firent le rapport. Voilà. Ils sont passés des paroles aux actes. Sans rester au stade de rêver, de discuter, mais ils sont passés à l'acte. Et ils ont pris leur pleine part dans le plan du salut, en étant des instruments entre les mains du Seigneur. C'est tellement important de ne pas simplement dire « Ah, il faudrait !» Mais puisse le Seigneur nous aider à passer aux actes. Et dans cette action, il nous est dit « Venez, allons !» C'est quel verbe, c'est quel temps ça? Enfin, c'est que, bon, c'est le présent. Mais c'est pas je vais, mais allons. Je crois qu'il y a là un sens aussi pour nous encourager, du bénéfice d'être unis ensemble dans cet effort pour porter la bonne nouvelle. Dans la nuit, Je pense que chacun d'entre nous, nous vivons des circonstances de vie, des défis personnels. Nous pourrions dire que nous avons des raisons de ne pas être si impliqués que cela, ou etc. Non, non, non. Faisons l'effort ensemble. Allons, dit c'est lépreux. Et la suite appartient à ceux qui ont entendu la bonne nouvelle. Mais la suite, eh bien, c'est que le Seigneur a bien béni tous ceux qui ont cru à cela, tous ceux qui se sont mis au bénéfice de cette bonne nouvelle. Ce peuple a été rassasié, béni. Nous faisons ce que nous faisons, notre part de témoin. Mais dans ces choses-là, c'est Dieu qui fait le maximum. C'était au commencement, c'était Dieu qui avait tout calculé, tout planifié pour les choses qui étaient impossibles aux hommes. Il avait déjà déclaré, il avait tout calculé, tout était fait, tout était fait. La grande part dans l'évangélisation, ça vient de Dieu. Dieu a tout accompli pour que maintenant nous ne sommes plus que des porteurs de cette nouvelle. Et puis, le Saint-Esprit agira, sauvera à main forte et à bras étendus. Frères et sœurs, permettez-moi de nous comparer, nous, ce soir, à des gens, des petites gens, les lépreux, hein, des gens qui n'étaient pas si grands dans leur société, au contraire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi ce jour-là des lépreux, des choses folles de cette époque-là. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nous faisons ce service de témoignage sans gloire personnelle. C'est parce que nous avons été tellement bénis. Nous avons tellement goûté à sa grâce que nous ne voulons pas garder pour nous. Et c'est par amour et pour Dieu, par reconnaissance, et par amour aussi pour les âmes. Et ne pensez pas, ne laissez pas l'adversaire dire « Ah, mais tu sais, ton témoignage est faible, ou tu ne sais pas bien parler aux âmes, tu es gauche, etc. » Le diable va souffler un tas de choses pour dire dans nos cœurs, pour nous effrayer, pour nous intimider à cela. Et je crois que ce soir, c'est notre soirée de prière. Et nous pouvons demander au Seigneur, « Seigneur, je sais que je suis, aux yeux du monde, aux capacités du monde, comme ces lépreux, sans force et misérable. Mais si tu me choisis, Seigneur, et tu l'as montré, puisque tu m'as fait goûter en premier à ta grâce, eh bien, avec ton courage, avec ta force, avec ton esprit, eh bien, je contribuerai à l'évangélisation. Allons ensemble. Je serai là. Mais pas seulement là. Avant d'être là, et je serai toujours là, c'est clair. Mais Seigneur, demain, ce soir peut-être, ou demain, ou dans les quelques jours, je t'en prie, Seigneur, donne-moi ta force, ton courage. Mets dans mon cœur des personnes à qui je peux aller dire, inviter. Seigneur, je ne veux pas être ce chrétien qui va venir simplement être là. Et même si je viens tout seul, Mais je l'aurais fait. Je serais allé inviter plusieurs. J'aurais parlé à plusieurs. Et s'ils ne m'ont pas écouté, qu'ils ne viennent pas, tant pis. Mais moi, je ne veux pas avoir au fond de mon cœur une certaine conscience qui me torture. J'ai gardé le silence. Je me suis réfugié simplement en étant un chrétien à venir parce qu'il y a une réunion à écouter. Non. J'ai fait avec ton secours, ta force, les pas vers les âmes. Frères et sœurs, peut-être que ce que je dis ce soir est peut-être un peu dérangeant parce que je vous bouscule un peu. Hein? Je sais quelque chose de cela, frères et sœurs. Parce que depuis 1970, je me suis converti. Ça fait des années. Je me souviens des premières années, ou de la première année. J'avais 16 ans simplement. Hein? Bon, alors, j'étais tellement bouillant pour le Seigneur. J'étais tout nouveau dans la grâce du Seigneur. Alors, j'étais encore à l'école et j'ai dit, Seigneur, voilà, la rentrée d'école vient de se faire. Je suis dans une classe d'un peu plus de 30 personnes. Je prends l'engagement devant toi, Seigneur, avec ton aide, que pendant cette année, aucun de ses camarades de ma classe aucun d'entre eux ne restera sans avoir entendu le témoignage de l'Évangile. Je me prends devant toi cet engagement que je chercherai coûte que coûte durant cette année à voir à la sortie d'un cours, au temps de la dans le moment de la cantine, je ne sais pas, un moment ou un autre, ou un moment personnel, privilégié, avec un, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre. Je veux, avec ton aide, pouvoir parler de toi. Et je l'ai fait par la grâce du Seigneur. Je l'ai fait. Puis nous étions avec Martine, avec Alain aussi. Alain était un tout petit peu plus jeune que nous, mais nous étions là, dans cette église où il y avait un mouvement. De témoignage, de salut, un mouvement de réveil de conscience pour le salut des âmes, c'était formidable. Et vous savez, avec le temps, eh bien, le cercle, notre vie est tellement engagée avec l'Église. Nous faisons de la musique, par exemple, pour ceux qui font de la musique, nous faisons le ménage, les constructions, les choses. Et puis, notre temps est engagé dans l'Église, nos amitiés se trouvent essentiellement entre chrétiens, frères et sœurs, et sans s'en apercevoir. Et puis, le potentiel de connaissance de nos amitiés extérieures se réduisent parce qu'ils ont tous... On les a peut-être tous à peu près déjà contactés, etc. Je comprends alors, frères et sœurs. Là, je parle à des frères et sœurs, pour la majorité d'entre nous, qui connaissons le Seigneur depuis X années. Depuis X années. Alors, nous sommes des gens de l'Église. Et le danger pour nous, frères et sœurs, parce que je me mets dans ce sens-là, le danger pour nous, c'est de perdre cette saveur du témoignage. C'est de perdre cette saveur du témoignage. Nous restons des croyants fidèles. Nous sommes fidèles aux réunions. Nous sommes prêts à soutenir par notre présence quand il y a une mission d'évangélisation, etc. Mais je le dis en étant un avec vous, pas en pointant du doigt. C'est notre défi, frères et sœurs, jusqu'au bout de notre vie, de lutter contre une habitude où on se laisse aller et où on pense que c'est d'autres qui feront pour nous. Et avec l'âge qui passe aussi, etc., etc. Alors, ce que je dis ce soir, c'est un petit peu comme un défi pour nous tous, pour moi y compris. Seigneur, ne permets pas que ces prochains jours soit comme un temps d'entretien où je viens comme à une réunion. Mais Seigneur, redonne-moi la passion des âmes. Et moi, puisque dans ce « Allons ensemble », ma part est de partager l'Évangile, je veux me tenir devant Dieu. Et je veux dire, Seigneur, dans toute ma faiblesse humaine, donne-moi, je te prie, ton onction et ta parole dans ma part d'annoncer. Mais que chacun d'entre nous, dans notre part, Seigneur, donne-nous d'être un peuple de témoins. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous vous rendez compte que le nombre que nous sommes ce soir, on n'est pas toute l'Église là. Vous êtes les fidèles de l'Église, vous êtes ceux qui aiment la prière. Mais si nous repartons avec ce défi, en disant, voilà, je veux dans ces prochains jours, quoi qu'il en soit, au moins parler à une, deux, trois âmes. Et si dans la grâce du Seigneur, je peux en accompagner une, ou plusieurs même, à l'Église, si nous pouvions faire cela, si nous pouvions prendre cette décision personnellement devant Dieu, c'est un défi. Je ne vous laisse pas en paix, hein. Et puis ces quelques jours où on est ensemble avec pasteur Alain, eh bien, c'est une joie. C'est une joie. Je ne sais pas combien de temps on va être au milieu de vous, mais pour nous, c'est vraiment une grâce d'être avec vous. Et c'est vraiment une grâce et une grande responsabilité, mais au fond de nous, avec tremblement, c'est une grande joie de pouvoir vivre avec vous trois petits jours devant nous, où l'annonce de l'Évangile sera faite. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Soyons-le, frères et sœurs.